La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Cet appel sur l'actualité, chaque matin, votre émission de compréhension, d'explication et de débat. Dans une demi-heure, dans la deuxième partie de l'émission, nous attendons vos réactions aux derniers développements au Soudan. La transition progresse, le Conseil souverain, mis sur pied après des mois de tractations, a pris ses fonctions à Khartoum, en remplacement du Conseil militaire. 5 de ses membres, dont le président de cet organe, le général, Al-Bourhan, viennent de l'armée, les 6 autres sont des civils, de même que le Premier ministre Abdallah Hamdok, dont le gouvernement devrait être formé d'ici à la fin du mois. Alors le Soudan va-t-il dans la bonne direction à votre avis? Quel regard portez-vous sur cette transition, sur ces 8 mois de révolution à Khartoum? Est-elle équilibrée? Ne fait-elle pas trop la part belle aux militaires qui étaient déjà là sous Omar el-Béchir? Nous attendons vos commentaires, vos réactions par téléphone. 33 9 693 693 70, c'est le numéro du standard. Vos messages sur WhatsApp, 33 6 89 28 53 64. Et puis vos réactions, bien sûr, également sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, pour débuter, comme chaque matin, nous abordons les questions que vous vous posez sur l'actualité. Premier intervenant ce matin, c'est Médard. Bonjour.
Bonjour François Mazé.
Médard, en ligne de Cotonou, fidèle de l'émission, vous avez des questions concernant le navire Open Arms, navire d'une ONG espagnole qui secourt les migrants en Méditerranée et qui, sur décision de la justice italienne, a accosté mardi à Lampedusa. Allez-y Médard.
Absolument François, sur décision d'un procureur italien, les migrants présents à bord du navire humanitaire Open Arms ont été débarqués à Lampedusa après 19 jours en mer malgré les refus successifs de Matteo Salvini. Alors, pourquoi la justice italienne a autorisé cet accostage contre les décisions de Salvini? Quel va être le sort des migrants accueillis à Lampedusa?
On va le demander à Juliette Gerbrand. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Envoyé spécial de RFI à Lampedusa. C'est vrai, la justice italienne n'a pas hésité, Juliette, à prendre à rebours le ministre italien de l'Intérieur, le chef de l'extrême droite, Matteo Salvini. Alors comment le procureur d'Agrigente a-t-il justifié et défendu sa décision?
C'est une décision qu'il a prise pour des raisons d'urgence humanitaire, en fait. Le procureur d'Agrigente en Sicile, qui est compétent dans cette histoire, est venu à bord du bateau mardi. Luigi Patronaggio, c'est comme ça qu'il s'appelle, voulait évaluer la situation et il était accompagné d'un psychologue et d'un inspecteur sanitaire. Et il a conclu de ce qu'il a vu que l'état psychologique de la plupart des migrants était tellement dégradé qu'il y avait danger. Le rapport cité par la presse italienne parle de risque de crise de psychose notamment. Et la responsable d'une ONG de santé qui était intervenue à bord a comparé cette situation à une nouvelle forme de torture après toutes celles subies comme on le sait, en Libye. Et vous vous souvenez, avant-hier, une dizaine de personnes s'étaient jetées à la mer. 2 avaient été hospitalisées. Et puis, c'est sans compter sans les conditions sanitaires déplorables à bord du navire. Alors, revenons à l'incendie un peu sur le processus judiciaire. Dans un premier temps, c'est vrai, Matteo Salvini signe un décret interdisant aux bateaux d'entrer dans les eaux italiennes. L'ONG dépose alors un recours. Le tribunal administratif lui donne raison et ordonne qu'on laisse l'Open Arms entrer dans les eaux italiennes, mais il n'indique pas de port de débarquement. Et puis à ce moment-là, Matteo Salvini fait un recours urgent, il signe un nouveau décret en vertu de la loi qu'il vient d'adopter, la loi sécurité et immigration. La ministre de la Défense refuse de le signer, mais le ministre de l'Intérieur persiste. Il invoque toujours cette loi sécurité pour refuser l'attribution d'un port de débarquement. Et là, c'est le blocage que l'on sait.
Mmh. Alors Médard, vous demandez, Juliette, si l'on a des indications sur l'avenir de cette centaine de personnes qui étaient à bord de l'Open Arms. Juliette, est-ce que vous êtes encore là, Juliette Gerbrand?
Pour l'accueil, oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez?
Allez-y, Juliette, poursuivez.
Oui, vous m'entendez. Donc, je disais qu'il y avait pour ces personnes eu un accord entre plusieurs pays de l'Union européenne pour leur accueil. La France, l'Allemagne, la Roumanie, le Portugal, l'Espagne et le Luxembourg. Au passage, ce sont les pays qui ont souscrit à un projet d'accord européen initié par la France et l'Allemagne début juillet et qui devrait être finalisé en septembre pour éviter justement que les crises se succèdent. Mais il faut maintenant que les pays qui ont accepté d'accueillir ces personnes traitent leur demande d'asile. La France a envoyé du personnel pour ça, de l'OFPRA. Mais attention, Paris n'accueillera que les personnes éligibles au statut de réfugié. Et elle a fixé le nombre de personnes accueillies à 40, alors que les procédures de demande d'asile n'ont pas encore eu lieu, bien sûr. Quant aux autres migrants, ceux qui ne sont pas éligibles au statut de réfugié, donc ils doivent rester en Italie et en théorie être renvoyés dans leur pays d'origine. L'Italie qui, d'ailleurs, prend, au passage, il faut le rappeler, prend aussi toujours en charge également les mineurs, comme le veut le droit international, et les personnes qui ont besoin de soins ou d'hospitalisation.
Mmh. Juliette, vous restez avec nous. Médard a une autre question pour vous.
Absolument. L'Océan Viking, un autre navire humanitaire, cherche lui aussi un port d'accueil. Pourra-t-il bénéficier de ce précédent ?
Juliette, l'Océan Viking, ce sont plus de 350 personnes, hein, toujours en mer. Est-ce que ces personnes-là pourraient accoster, elles aussi, à Lampedusa ?
C'est difficile à dire. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de précédent, parce que la situation est totalement inédite et elle résulte de tout un tas de procédures judiciaires. L'Ocean Viking, pour l'instant, est dans les eaux internationales et il a demandé un port sûr de débarquement au centre de coordination des secours en mer, comme le veut la procédure. Et il attend une réponse, réponse qu'il n'a toujours pas eue après 12 jours en mer et plusieurs sauvetages. Hein. Il y a, vous le disiez, 356 personnes à bord, un tiers de mineurs non accompagnés, qui donc resteront en Italie, 5 femmes et 4 enfants. Impossible de dire comment les choses vont se passer. La porte-parole de la Commission européenne a dit qu'elle espérait qu'un accord soit trouvé sur le même de même que pour l'Ocean Viking. Évidemment, vous imaginez qu'un tiers de mineurs non accompagnés, c'est déjà c'est un chiffre important de gens qui ne pourront pas être accueillis ailleurs qu'en Italie. Et puis évidemment, même s'il y a un accord, ça ne règle pas la question du port de débarquement. Or, le droit maritime est très clair, hein, Médard, c'est le port sûr le plus proche.
Merci Juliette Garbrand d'avoir été en ligne avec nous de Sicile où vous vous trouvez pour RFI. Et merci à Médard pour votre question. On continue de parler de l'accueil de migrants, mais cette fois en Méditerranée orientale, côté grec. Athènes a déclaré avoir atteint son niveau d'accueil maximum. Bonjour Claude.
Bonjour RFI, bonjour François Mazet.
Vous êtes en ligne de Kisangani et vous avez des questions à ce sujet.
Oui, exactement. La Grèce déclare qu'elle a atteint son niveau maximum d'accueil et elle n'a plus de place pour accueillir les nouveaux migrants. Comment expliquer que la Grèce ne peut plus accueillir de nouveaux migrants alors que la crise migratoire de 2015 est déjà passée?
On va le demander à Céline Schmitt. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la porte-parole en France du Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés. La Grèce, je crois, est redevenue cette année le premier pays d'arrivée de migrants. On parle, si les chiffres que j'ai sont bons, de 20 000 personnes depuis le début de l'année environ, en provenance de Turquie, par la frontière terrestre ou par la mer. C'est à comparer avec les 850 000 arrivées de 2015 dont parlait Claude. Alors la Grèce est-elle vraiment au maximum de cette capacité ou, selon vous, cette déclaration du nouveau gouvernement traduit-elle un changement de cap politique plutôt lié au retour de la droite au pouvoir à Athènes?
Alors effectivement, pour faire un point sur la situation en Grèce, c'est près de 30 000 personnes, réfugiés et migrants, qui sont arrivés cette année. Au mois de juillet, il y a eu une augmentation des arrivées et au mois de juillet, 5 000 personnes sont arrivées et c'est le chiffre le plus important d'arrivées de réfugiés et de migrants sur les îles grecques depuis mars 2016, lorsqu'il y a eu une déclaration entre l'Union européenne et la Turquie. Ce qu'il faut savoir, ce qui a changé depuis 2016, c'est qu'il y a toujours eu des arrivées de réfugiés et de migrants en Grèce, mais en 2015, c'était surtout, en fait, les îles grecques étaient utilisées pour un transit, en fait, donc les réfugiés passaient. Depuis mars 2016, les réfugiés doivent rester sur les îles où elles sont enregistrées, où elles sont accueillies dans des centres de réception, où ensuite il y a une procédure pour accéder à la demande d'asile. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a maintenant près de 25 000 réfugiés et migrants qui sont sur les îles, qui sont dans des centres d'accueil, qui ont une capacité d'accueillir environ 5 400 personnes. Donc effectivement, les centres d'accueil accueillent beaucoup plus de personnes.
Oui, ils sont surpeuplés et certains disent insalubres.
effectivement, les conditions sont très très difficiles dans ces centres d'accueil. Nous avons encore effectué, nous sommes sur place et des visites régulières ont lieu. Et effectivement, des mesures doivent être prises rapidement pour améliorer les conditions dans ces centres d'accueil. Améliorer aussi les délais pour accéder à la demande d'asile, les transferts sur le continent grec. Les capacités d'accueil ont été augmentées, là aussi, de 2015 à maintenant. Elles sont passées de 1000 à 50 000. Mais effectivement, il y a encore des choses à faire. Et pour répondre à cela, bien évidemment, il y a des choses à faire en Grèce. Mais il est aussi important qu'il puisse y avoir un partage de responsabilités en Europe et notamment une relocalisation des réfugiés en Europe, comme ça a pu avoir lieu jusqu'en 2017. Mais ce programme de relocalisation a pris fin.
Oui, c'est ce que demandait Claude aussi, hein, qui est notre auditeur à Kisangani. Est-ce que la Grèce temporise seulement, ou est-ce que ces nouveaux arrivants vont être, à votre avis, répartis vers les autres pays européens?
Alors, le programme qui existait, hein, de relocalisation de réfugiés vers d'autres pays européens, a pris fin en 2017. Donc entre 2016 et 2017, il y a eu 23 000 demandeurs d'asile qui ont été relocalisés. Pour l'instant, il n'y a pas de programme de relocalisation, mais effectivement, pour nous, c'est un point important, qu'il puisse y avoir justement une solidarité envers la Grèce, et qu'il puisse y avoir la relocalisation aussi pour des réunifications familiales de personnes qui arrivent et qui ont des membres de famille dans d'autres pays européens.
Pour ce qui était de ma question sur le changement politique en Grèce, le nouveau gouvernement de centre-droit, quelle influence cela a sur la politique migratoire grecque?
Alors, pour l'instant, je veux dire, les réfugiés continuent à arriver. Nous travaillons avec les autorités, nous les avons rencontrés dernièrement encore. Il faut effectivement trouver des solutions pour améliorer l'accueil des personnes qui arrivent, continuer à les accueillir. Nous, le HCR, on a également des programmes sur place. On aide justement, avec l'aide de la Commission européenne, en matière de logement de réfugiés, de demandeurs d'asile dans les zones urbaines. Ce travail continue. Et il y a aussi plus en fait d'investissements qui doivent être faits dans l'intégration des réfugiés, parce que là, on parle d'accueil des réfugiés. Mais là aussi, pour les réfugiés qui sont là, depuis un certain temps, et aussi pour permettre de libérer des places d'accueil d'urgence, il faut aussi investir sur l'intégration des réfugiés.
Merci Céline Schmitt d'avoir été en ligne porte-parole du HCR en France, le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, et merci à Claude qui nous écoutait à Kisangani. Direction Afanian, c'est sur la côte togolaise. Bonjour Eugène.
Bonjour François Mazé, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous avez des questions sur la piraterie dans le golfe de Guinée, quelles sont-elles?
Effectivement, 17 marins ont été kidnappés par des pirates au large du Cameroun. Les deux navires ont été attaqués ce jeudi 15 août. Les soupçons se portent sur les pirates nigériens. Première question François, pourquoi les pirates nigériens sont-ils suspectés?
On va le demander à Agnès Ebo de l'Institut d'études de sécurité de Yaoundé, spécialiste de la criminalité organisée. Bonjour.
Bonjour François.
Alors bonjour. Agnès, pourquoi suspecte-t-on des pirates nigérians?
Déjà, il faut rappeler que les enquêtes sont en cours et qu'on n'a pas vraiment de revendications sur cette question, sur ces attaques. Donc on va rester prudent et ne pas indexer spécifiquement le Nigeria ou un autre pays. Mais ceci étant, la question n'est pas tout à fait déplacée parce que on se souvient que dans les années 90 et 2000, la région pétrolifère du sud-est du Nigeria, le delta du Niger, avait des militants qui revendiquaient une meilleure prise en compte des populations pour l'exploitation pétrolière. Et ces revendications n'ont pas eu des réponses satisfaisantes et durables et ont évolué vers une criminalité aussi bien sur la terre ferme qu'en mer. Et La criminalité, généralement, en mer, est juste une extension, en fait, de ce qui se passe sur la terre ferme. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent le réflexe de penser aux Nigérians lorsqu'on parle de piraterie ou de d'autres formes de criminalité en mer dans le golfe de Guinée, parce que le delta du Niger est considéré comme l'épicentre de la piraterie à ce niveau-là. Mais une fois de plus, il faut quand même rester prudent.
D'accord. Eugène, vous avez d'autres questions pour Agnès Ebo?
Oui, pourquoi les eaux du golfe de Guinée sont-elles considérées comme les eaux les plus dangereuses du monde?
Agnès Ebo, pourquoi sont-elles si dangereuses, ces eaux du golfe de Guinée?
Alors, les eaux du golfe de Guinée sont... C'est vrai qu'il y a une forte actualité en ce moment où on parle beaucoup du golfe de Guinée comme la zone la plus dangereuse au monde en termes maritimes. Mais il faut quand même noter que le mode de collecte des informations, des données sur les attaques dans le golfe de Guinée est basé sur un mécanisme de déclaration. Donc, ça veut dire que les marins et les capitaines de navires, etc., déclarent en fait qu'ils ont été attaqués. Souvent, on parle de piraterie parce que c'est la façon la plus simple de dire ce qui s'est passé, mais de façon technique et légale en droit international, ce n'est pas forcément des attaques de piraterie. Ça pose une sorte de petite controverse, en fait, de savoir si réellement ces attaques sont aussi nombreuses qu'on le dit. Ceci étant, la piraterie maritime, enfin, la piraterie et les autres formes d'attaques ne sont pas les seuls crimes en mer dans le golfe de Guinée. Il y a d'autres formes de criminalité comme les trafics de drogue, les trafics d'armes avec les navires, la pêche illégale, qui sont en fait beaucoup plus nocifs et beaucoup plus fréquents. Mais bon, peut-être que la piraterie fait des meilleurs titres de journaux ou autre chose. Donc on reste un peu nuancé quand on dit que c'est la zone la plus dangereuse, mais on a effectivement quand même un problème de criminalité assez élevé et qui relève aussi des problèmes de gouvernance qu'on a au niveau des États du golfe de Guinée.
Une criminalité multiforme et des chiffres difficiles à interpréter. Eugène à Fagnan au Togo a une dernière question pour vous, Agnès Ebo. Allez-y, Eugène.
Oui, troisième et dernière question. Qu'est-ce qui est entrepris par les États de la région pour endiguer ce phénomène?
Quelle est la réponse de ces États, Agnès Ebo, et est-ce que ça fonctionne, puisque c'est bien là la question?
La piraterie et les autres crimes en mer sont une affaire de tout le monde, en fait. Donc, vous voyez, par exemple, dans l'incident dont on parle, et c'était des navires, je pense, des pavillons libériens et des Antilles ou quelque chose comme ça, avec des marins et des équipages européens, asiatiques, une attaque au large du Cameroun. Donc, ça veut dire que c'est un problème international, d'abord. À ce niveau-là, donc, on a des réponses qui sont internationales, qui sont régionales et aussi qui sont étatiques. Les États ont des capacités assez faibles en général parce qu'ils ont des marines pas très développées.
Embryonnaires.
Voilà. Mais au niveau régional, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits. Il y a un mécanisme qu'on appelle le mécanisme, l'architecture de Yaoundé, en fait, c'est un code de conduite qui a été adopté en 2000, suite à une conférence à Yaoundé, justement, en 2013, et qui est mis en œuvre par le Centre interrégional de coordination, qui est aussi basé ici à Yaoundé, et qui a la responsabilité de, justement, coordonner toutes les initiatives, aussi bien étatiques que régionales, au niveau de la CEDEAO et de la CEAC.
Mais Agnès Ebo, est-ce qu'il ne faudrait pas un soutien international plus fort, comme on l'a vu en mer Rouge, qui a permis de faire reculer la piraterie dans cette région-là?
Le golfe de Guinée, c'est une zone extrêmement vaste. On parle quand même de 6000 km de littoral. Donc, c'est assez grand, mais il y a un soutien international. Alors, la réponse internationale, elle est plus régionale. En fait, les acteurs internationaux ont plus choisi de soutenir les organismes régionaux donc, que je mentionnais, le CIC, la CEDEAO et la CEAC. Et il y a plusieurs programmes qui renforcent les capacités des marines, mais aussi des soutiens techniques et des soutiens financiers.
Qui, pour l'instant, n'ont pas totalement porté leurs fruits. Merci Agnès Ebo d'avoir été avec nous et merci à Eugène qui est à Fagnan, au Togo.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.